Bonjour à tous et bienvenue dans L'Échappée, le podcast qui, toutes les deux semaines, vous fait partir à la rencontre d'un professionnel du vélo. Pour ce sixième épisode, j'ai eu le grand plaisir d'échanger avec Pavel Sivakov, un des très grands espoirs du cycliste mondial. Pavel est le fils de deux coureurs pro russes. Il est né en Italie, mais il a déménagé en France assez un an pour suivre ses parents, la carrière de ses parents. Il a grandi entre l'Essonne, puis les Midi-Pyrénées à partir de 8 ans. Il possède donc les deux nationalités, russe puis française, qu'il a acquis à 18 ans. Pavel se fait découvrir très tôt et casse tout dès 2017 chez les Espoirs avec BMC Développement, où il est le premier coureur à gagner trois grandes courses à étapes, Ronde de l'Isard, Baby Giro et le Tour de la Vallée d'Aoste. Il devient alors pro en 2018 avec Sky, maintenant Ineos Grenadiers, et dès sa deuxième année, en 2019, il est vainqueur du Tour des Alpes, du Tour de Pologne et il se classe 9e de son premier Giro. En 2020, il fait 2e de la route d'Occitanie derrière Egan Bernal, son coéquipier, et 11e du Critérium du Dauphiné. Il participe à son premier Tour de France, qu'il finit malgré deux grosses chutes dès la première étape. Cette année, il devrait s'aligner aussi bien sur le Giro que sur la Vuelta. Je laisse Pavel vous raconter tout ça. Salut Pavel et bienvenue dans L'Échappée.
Merci de m'accueillir et merci pour l'invitation.
Avec très grand plaisir. Pavel, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans le vélo ?
C'était assez logique pour moi. Mes parents, les deux, en fait, étaient professionnels. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis ma jeunesse. Même si j'ai pas débuté par le vélo en tant que sport, j'ai pratiqué plusieurs sports différents avant de commencer le vélo. Je pense vers 13 ans, environ 13 ans, j'ai commencé le vélo. Mais voilà, j'ai pratiqué par exemple le judo, le tennis, le foot. J'ai fait plein d'autres choses. Donc, j'ai pas vraiment été poussé dedans, mais au final, c'était quelque chose d'assez logique. Et voilà, c'est assez simple, on va dire, comment je suis arrivé dedans. C'était, moi, comme j'ai dit, quelque chose d'assez logique.
Et à partir de quel âge tu as réfléchi à devenir pro ?
Honnêtement, c'était toujours une sorte de rêve pour moi. En voyant mon père professionnel, j'ai toujours un peu rêvé, voilà, d'être un coureur cycliste professionnel. Par exemple, à l'école, quand on demandait ce que je voulais faire, je disais voilà, j'aimerais bien un jour être cycliste pro. Mais après, ensuite, il y a vraiment, je savais voilà, dès la jeunesse, je savais que c'était pas peut-être pas ce que j'allais faire. J'avais pas encore commencé vraiment la compétition, donc là, on va dire le moment où j'ai réalisé que je pourrais, pourquoi pas, avoir une chance de devenir pro. Je sais pas, ça serait vers en junior sûrement. En cadet, je marchais très bien déjà. J'ai participé au Festival Olympique de la Jeunesse et ouais, peut-être à partir de ce moment-là, je me suis dit voilà qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter.
Et du coup, au lycée, quel était ton rythme d'entraînement ?
Je m'entraînais beaucoup. Honnêtement, à ce moment-là, c'était, on va dire, je sacrifiais mes études plutôt pour le vélo. Et voilà, c'était assez compliqué cette période-là, mais ça a payé.
Pas de regret, ouais.
Ouais, pas de regret. Un petit peu quand même, mais voilà, c'est. Mais non, pas de regret au final, c'est sûr.
Et du coup, après le lycée, tu passes par l'équipe développement de la BMC. Et là, en fait, quel était ton statut ? Tu avais déjà un rythme pro à ce moment-là ?
En junior, j'ai participé à quelques courses avec l'équipe belge Avia. J'ai gagné le Tour des Flandres et une autre course par étape en Autriche, une course internationale. Et ça m'a permis de décrocher voilà, un contrat avec BMC. Et ensuite, on peut dire que c'était quand même un rythme déjà professionnel. Ouais, on n'était pas une équipe pro, on était une équipe amateur, mais on était très bien entouré. Il y avait du staff. On prenait l'avion pour aller sur les courses. Et quand je suis arrivé, honnêtement, c'est comme quand on arrive dans toutes les équipes, on passe une catégorie supérieure. On n'a pas vraiment un statut spécial, on va dire. Faut faire nos preuves. Et voilà, j'ai juste travaillé dur et j'ai gravi les échelons dans l'équipe petit à petit. Ma première saison, c'est plutôt bien passé. J'ai pas, on va dire, j'ai pas été exceptionnel en gagnant beaucoup de courses, mais j'ai été quand même, on va dire, j'ai une progression assez crescendo et j'ai réussi quand même à décrocher quelques très bons résultats, ce qui m'a donné la confiance pour ma deuxième saison qui elle ensuite a été, on va dire, très très bonne. Et j'ai gagné des grandes courses comme des grandes courses espoirs comme la Ronde de l'Isard, le Baby Giro et ensuite le Tour de la Vallée d'Aoste. Une étape sur le Tour de l'Avenir aussi. Donc ouais, non, c'était de très belles années pour moi. J'en ai des très bons souvenirs. Ces 2 années d'espoir, c'était super. C'était aussi vraiment le premier contact. Pas le premier contact, mais on était une équipe internationale et je pense que pour le développement personnel de chaque coureur, même juste en tant que personne, c'est quelque chose de super d'avoir ces années avec des gars de nationalités différentes. On apprend à parler l'anglais et non, c'était super.
C'est là où tu as appris l'anglais?
Ouais. Vraiment BMC, ouais, c'est. Quand je suis arrivé, j'avais quand même des bases, mais voilà, mon anglais n'était pas exceptionnel. Et voilà, parler avec les gars au quotidien, c'est sûr que on n'a pas le choix, on peut pas parler notre langue, donc voilà, faut s'adapter. Et c'est là vraiment, ouais, voilà, c'est là que j'ai vraiment bien appris. Et ensuite, voilà, en arrivant chez Sky, j'ai perfectionné parce que c'est une équipe anglaise, le vocabulaire, parce que là, on était plus, on va dire, il n'y avait pas d'anglais. C'était plus belge, néerlandais. Donc voilà, tout le monde parle très bien anglais, mais c'est pas l'anglais pur, on va dire, du véritable anglais. Et voilà, en arrivant chez Sky, c'est là que, on va dire, je pense l'avoir perfectionné un peu plus.
Et après cette deuxième saison exceptionnelle chez les Espoirs, il y a combien d'équipes pour World Tour qui t'ont approché?
Honnêtement, je sais pas exactement combien d'équipes pour le tour, parce que voilà, on a des agents qui font cela et avec mon agent, on s'était dit, il m'avait demandé quelles équipes on avait fait, on va dire une sorte de liste, quelles équipes je mettrais, voilà, une priorité sur quelles équipes. Et bien sûr, il y avait BMC, mais malheureusement, ils avaient des problèmes de sponsorship. Donc, moi, je voulais un contrat sur le long terme de 3 ans. Et puis voilà, il y avait Sky aussi, bien évidemment, sur la liste. Et j'ai eu une offre de leur part pour une durée de 3 ans. Donc voilà, aucun regret d'avoir rejoint cette équipe.
Des équipes françaises qui t'avaient approché?
Oui, bien sûr, il y avait des équipes françaises, ouais, qui m'avaient approché, AG2R et FDJ, bien sûr. J'ai été approché, mais voilà, quand. Je voulais rester aussi dans cette optique d'équipe internationale. Et voilà, quand on a une offre de chez Sky, quand on est espoir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça reste même au jour d'aujourd'hui une des plus grosses équipes au monde, une des meilleures équipes au monde. Donc, non, j'ai aucun regret d'avoir rejoint cette équipe. Je me sens bien au sein du maintenant team Ineos Grenadiers.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences de cette équipe par rapport aux autres? Qu'est-ce qui font ses forces?
Honnêtement, je peux pas dire, je pourrais pas expliquer les différences parce que j'ai pas connu, on va dire, quelque chose de différent. J'ai signé chez les professionnels, chez Sky. Donc, pour moi, peut-être ce qui me semble être la normalité, c'est quelque chose de différent pour des coureurs d'une autre équipe. Donc, personnellement, c'est difficile de trouver des différences par rapport aux autres équipes. De ce que j'entends, c'est peut-être, honnêtement, je sais pas, on a beaucoup de staff, on est vraiment très bien entouré. En fait, quand on est sur les courses, on pense qu'à une chose, c'est, voilà, monter sur le vélo et donner le meilleur. On est très bien accompagné au quotidien, même quand on est à la maison, on a du support. Par exemple, on va dire maintenant, on a des pôles, on a le pôle des gars qui habitent aux alentours de Monaco, Nice. Et maintenant, on a beaucoup de coureurs aussi en Andorre où j'habite actuellement. On a une personne qui nous supporte, qui peut nous supporter sur des entraînements, qui peut nous suivre si besoin. Donc, non, c'est quelque chose de super.
Et à peu près combien de personnes dans l'équipe avec lesquelles tu travailles directement, toi, au quotidien?
Pas tant que ça au final. Il y a mon coach, bien sûr. Mais ensuite, le nutritionniste aussi, par exemple. Mais voilà, c'est pas non plus chaque jour. Au final, bah, vraiment au quotidien, ce serait que mon coach. Parce que quand on est à la maison, on veut aussi un peu on va dire, de liberté, de pouvoir respirer, être tranquille, ne pas penser qu'à l'équipe. Donc, non, je dirais pas qu'il y a énormément de monde.
Ton coach qui est un employé de l'équipe?
Oui. On est tous coachés par des coachs de l'équipe. Maintenant, c'est devenu la norme, je pense, que dans quasiment chaque équipe World Tour. Je pense que le coaching se fait en interne dans beaucoup d'équipes.
Tu sais mieux que moi, bah, ça n'avait pas été le cas de Julien Bernard qui avait encore son coach basé en
Ouais,
France.
ça dépend des équipes, mais de plus en plus, le coaching se fait en interne. De ce que j'entends, c'est quand même. C'est peut-être pas l'obligation dans certaines équipes, mais beaucoup d'équipes, voilà, font du coaching en interne. Je pense par exemple à une équipe comme Jumbo, je pense que ça doit être le cas pour eux aussi. Après, moi, ouais, je connais pas. C'est comme je disais, je peux pas vraiment citer les différences parce que je connais pas comment ça fonctionne dans les autres équipes.
Et ton coach, tu le partages avec combien d'autres coureurs?
Je sais pas exactement, je pense qu'on doit être 8 à être coaché par lui. Alors il y a moi, Tao, Geraint Thomas, Adam Yates, Richie Porte, Juan Dennis, et je pense que c'est tout. Au final, on n'est pas tant que ça. Il avait plus de coureurs l'an dernier, je pense. Là, cette année, il en a un petit peu moins, mais
Quel est son
ouais.
nom?
Tim Kerrison.
Et du coup, est-ce que au sein de l'équipe, par exemple, là, on est en tout début de saison, vous avez eu les stages de pré-saison, est-ce que vous savez comment vous vous positionnez au sein de l'équipe? Est-ce que vous avez les statistiques des autres coureurs?
Non, non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. C'est difficile parce qu'il y a certaines personnes qui vont viser leurs objectifs plus tard dans la saison, d'autres plus tôt. Donc, le niveau de forme peut varier en suivant de leur préparation et de chaque coureur. Donc, non, on a plus, on va dire, un plan sur la saison. Et voilà, ça va. Je pense que même le statut sur une course peut vraiment dépendre. Même pour mon cas en 2019, quand j'ai attaqué la saison, voilà, je devais faire le Giro, mais je devais faire le Giro en tant qu'équipier, simple équipier pour l'équipe, pour Egan. Et les circonstances ont été telles que j'ai attaqué le Giro en tant que, on va dire, leader de. Avec Tao, on était deux leaders. De l'équipe pour le classement général, pas pour jouer la victoire comme on aurait pu le faire avec Egan, mais juste pour avoir notre chance. Et voilà, ça peut changer. On peut passer des paliers chaque saison, faire des grosses performances sur les courses et notre statut peut changer directement. Voilà, on va dire un plan. Pour moi, cette saison, ça va être d'aller sur le Giro, de retourner sur le Giro. Je vais essayer de me préparer d'être à 100%. Pour le départ, et ensuite on verra quel statut j'aurai. Si quelqu'un est meilleur que moi, c'est comme ça. Si voilà, Egan sera, c'est sûr, ça sera quand même le numéro un. Il a gagné le Tour de France, donc c'est même normal. Voilà, les gros coureurs comme ça qui ont déjà des performances ou des victoires sur les grands tours, c'est sûr, leur statut est, on va dire, ils ont la priorité, on va dire, pour un leadership. Mais comme on peut le voir, même l'année dernière, par exemple, avant le Tour de France, Chris et Geraint n'ont pas été sélectionnés, alors qu'on pourrait se dire, voilà, ils ont gagné le Tour de France tous les deux. Donc, c'est difficile, c'est, je pense, difficile aussi pour l'équipe, des fois, de faire des choix, surtout avec l'effectif qu'on a. On a tellement de bons coureurs que voilà, faut vraiment choisir, je pense. Le meilleur collectif en tant que, je voudrais dire, juste voilà, un collectif soudé, et ensuite aussi en termes de performance. Alors, faut penser à tout ça. Et non, pour le moment, c'est sûr, il n'y a pas vraiment de statut, je pense, pour nous. Bon, après, c'est sûr, il y a, voilà, quoi, il y a quand même des coureurs, on va dire, qui ont plus un statut de leader et d'autres plus d'équipiers. Et sinon, voilà.
Alors, comment des coureurs aussi jeunes que toi, Egan, Tao, vous vous retrouvez leader sur des grands tours, alors que ce n'était pas encore le cas il y a 10 ans, c'était beaucoup moins le cas il y a 10 ans, par exemple.
Bah, je pense honnêtement, Egan, c'est un bon exemple, mais Tao, je dirais, il a vraiment été, il s'est retrouvé leader sur le Giro, mais on va dire qu'il a quand même, il n'a pas vraiment, on va dire, brûlé d'étapes. Il a été petit à petit. On a vu quand même une progression assez constante de sa part, pas comme Egan qui est arrivé chez les professionnels et déjà dès sa deuxième année a gagné le Tour des France. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ensuite, on voit aussi les coureurs comme Pogacar ou même Remco qui performent, qui sont les meilleurs au monde dès le plus jeune âge, à mon avis. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose les dernières années et on me l'a déjà posée. Moi, je pense que c'est le fait que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ce qui peut être posté sur Internet, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations concernant les techniques d'entraînement, la nutrition, etc. Et je pense que dès le plus jeune âge, les coureurs sont déjà, on va dire, de plus en plus professionnels. Et c'est ce qui crée, on va dire, peut-être un pic, voilà, de performance plutôt dans la carrière. On va voir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment toute cette nouvelle génération va perdurer dans leur carrière, quoi. Et ouais, à mon avis, c'est vraiment tout cet accès en fait aux informations qui fait que les jeunes coureurs peuvent performer plus tôt.
Et est-ce que les capteurs de puissance ne remettent pas aussi tous les coureurs sur un pied d'égalité où en fait on a accès à de la donnée brute et par exemple un jeune comme Egan qui peut-être il y a 20 ans on n'aurait pas donné sa chance à un jeune de 21 ans, est-ce qu'aujourd'hui en fait les équipes à l'intersaison ils voient pas tout simplement qui développe le plus de puissance et avec toutes ces données, est-ce que ça remet pas aussi tous les coureurs sur un pied d'égalité?
Si, peut-être, ouais, c'est sûr. Après, c'est pas à l'intersaison, ce serait plus dans la saison parce qu'à l'intersaison, c'est trop loin encore des objectifs. C'est vraiment dans la saison qu'ils vont regarder, je pense, les coachs, les équipes. Mais c'est sûr que, voilà, quand on voit que quelqu'un performe très, très bien à l'entraînement, on va se dire, voilà, il peut le reproduire en course. Mais après, on peut donner un coureur une chance de pouvoir le faire sur la course. Mais si, après, quand on arrive sur la course, c'est pas que la puissance, que ce qu'on a dans les jambes qui compte. Il faut savoir courir. Et ça, c'est quelque chose de différent. Ça, on peut pas l'entraîner vraiment. On peut pas l'entraîner chez soi. Faut courir, faut faire les courses, faut savoir frotter, faut savoir se placer. Et tout ça, c'est quelque chose de différent. Et par exemple, un coureur comme Egan, on va dire, il est très bon dans tout ça. Il sait frotter, il sait se placer et c'est une de ses forces aussi. Donc voilà, c'est on va dire oui et non, parce que ça peut. Il y a certains coureurs aussi qui sont exceptionnels sur des tests ou sur des données de puissance, et ensuite ils vont. C'est pas les meilleurs sur le terrain. Donc c'est sûr, c'est un outil qui va aider les équipes à faire une sélection. Mais voilà, je dirais que aussi il y a les courses, le principal, c'est les courses.
Donc là, la hiérarchie pour le Giro n'est pas encore définie.
Bon, c'est sûr que voilà, Egan, ça sera le leader numéro un. C'est sûr que même lui, il a des ambitions. Après, pour ma part, je ne sais pas exactement quel rôle j'aurai. Moi, on va voir. On ne sait pas encore. Donc, je pense que voilà, y aller déjà avec Egan en tant que leader numéro un, c'est très bien. C'est un vainqueur du Tour de France, on aura déjà de bonnes chances de pouvoir jouer la victoire finale.
Et comment cette répartition des coureurs dans les différentes courses s'est faite à l'intersaison? Ça marchait comment? Est-ce que toi, tu as demandé par exemple à l'équipe ce que tu voulais faire?
Oui, en fait, je disais, voilà, moi, au départ, je voulais retourner sur le Tour de France. J'ai vraiment passé un sale tour l'année passée. Et Je m'étais dit que voilà, j'ai envie d'y retourner. En plus, j'habite en Andorre maintenant. Et le jour de mon anniversaire, c'est le 11 juillet, et le tour arrive en Andorre. Donc, je m'étais dit que ça peut être quelque chose de super. Mais au final, on a discuté aussi avec mon coach parce que voilà, on regarde aussi le long terme. Et pour ma progression en tant que coureur, on a décidé que ce serait bien d'essayer de faire deux grands tours cette année, si possible. Voilà, vraiment viser le Giro en début de saison et ensuite faire la Vuelta en tant qu'équipier. Et il y a les JO aussi qui vont être en l'été. Et on a discuté, on a eu, on va dire, une réunion sur Zoom avec mon coach et le management de l'équipe. On a discuté les différentes options et on a conclu que voilà, tenter de faire le Giro, les Jeux Olympiques et ensuite essayer d'enchaîner avec la Vuelta, ça serait vraiment un programme équilibré et ça me permettrait de bien récupérer, de bien assimiler les charges. Sans voilà, parce que même si faire 10 retours, c'est quelque chose de très compliqué, peu de coureurs peuvent le faire et j'ai encore jamais fait de grands tours et faire comme ça serait difficile. Et en plus, avec les JO, après le tour, c'est des JO très, on va dire, le parcours est très compliqué cette année. C'est peut-être une des seules opportunités que je vais avoir de pouvoir tenter quelque chose. Sur des Jeux Olympiques, donc ça me tenait à cœur aussi de le faire. Et voilà, on a défini un programme comme cela parce que c'était plus équilibré. Mais ensuite, comme pour chaque coureur, on peut déterminer un programme en début de saison et tout peut changer au fil de la saison également. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent changer dans l'équipe personnellement. Donc voilà, ça c'est le programme qu'on a au jour d'aujourd'hui. J'en suis content, honnêtement. Ouais, voilà, j'ai hâte de commencer la saison. Je devais commencer au Tour de Valence. Malheureusement, ça a été annulé. Donc je vais débuter ma saison sur le Tour du Var, des Alpes-Maritimes et du Var. Donc moi, j'ai hâte de commencer et commencer. Voilà, ça fait longtemps que je me prépare, donc ouais, ça va être intéressant.
Quel est ton objectif numéro un, toi?
Honnêtement, pour le moment, ça serait le Giro. Le Giro, ça va être vraiment le gros focus. On va dire en 2019, j'ai effectué un bon Giro. J'ai aussi hâte d'y retourner. On va dire, je sais pas. Voilà, je sais comment je l'ai préparé. Je sais ce que j'avais à faire pour être bien. Voilà, ça va être mon premier gros objectif et je dirais mon objectif numéro un cette saison. Et ensuite, voilà, récupérer et enchaîner avec les JO. Et puis, voilà, essayer de bien terminer sur la Volta. Ça serait vraiment la saison, on va dire, rêvée pour moi. Ce serait voilà, d'être à 100% sur le Giro. Ensuite, très bien sur les JO et enchaîner sur la Volta.
Et par rapport aux JO, est-ce que tu as des infos de l'intérieur? Est-ce que tu penses qu'ils vont se dérouler au Japon?
Aucune idée pour le moment, on a pas d'informations, on est tous dans le flou, on espère tous que ça aura lieu, pas que nous les cyclistes, je pense tous les sportifs au monde espèrent vraiment que les JO se dérouleront. Ça serait compliqué aussi pour le Japon de d'annuler tout ça, mais bon, après, c'est pas de notre sort, je pense, ça va au-delà du sport, donc voilà, on va aussi espérer que la saison aussi qui se déroule comme prévu. Déjà, le début de saison a été un peu compliqué, on va dire, sur les premières courses, les courses en Espagne. On croise les doigts pour les courses en France. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. Mais bon, on sait jamais, on peut rien prévoir vraiment.
Et en parlant des Giro, il y a la question, je pense que tu auras, à chaque fois que tu parleras un Français, de la nationalité. On sait que donc, tu es russe, de parents russes, tu as grandi en France et tu as pris la nationalité française à 18 ans, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Mais donc après avoir commencé à courir pour les équipes jeunes russes et que depuis tu continues à courir sous le drapeau de la Russie, il y avait des discussions comme quoi tu pouvais aussi peut-être courir sous le maillot français. Où en est la situation aujourd'hui?
En fait, le truc, c'est que si je change il y a 3 ans il y a 3 ans où je serais, on va dire, inéligible dans une équipe nationale. Si j'aurais changé, par exemple, cette année, je louperais les JO de Tokyo. Et voilà, comme je l'ai dit précédemment, les JO de Tokyo, c'est vraiment un parcours très compliqué. C'est une très bonne opportunité pour moi de faire quelque chose. Et voilà, on peut pas participer aux JO tous les jours. C'est quelque chose de spécial. Mais voilà, ensuite, oui, ça reste une question, on va dire, en suspens. Va falloir prendre une décision, je pense. Ensuite, après les JO, c'est sûr, il va falloir prendre une décision définitive. Mais oui, voilà, il y a toujours cette possibilité, c'est sûr.
Et avec les JO en 2021, s'il y a 3 ans de délai, si tu switches juste après les JO, est-ce que tu pourras participer à Paris 2024 en tant que Français?
Voilà, ça serait une question qu'il faudrait poser. Je ne suis pas sûr à 100%, mais peut-être que ça serait assez au final, je sais pas. J'y ai pensé aussi à ça. Donc faudra poser la question au comité olympique pour voir où voilà, ces organisations à l'UCI également, si ça serait le cas.
Et comment ça se passe en fait avec la fédération russe? Il y a les sanctions du CIO. Toi, ça marche comment pour toi? Ça t'impacte comment?
Personnellement, ça m'impacte pas du tout. C'est la seule différence, c'est qu'on va pas courir avec on va dire, le drapeau de la Russie. Je sais pas comment seront les maillots, par exemple, s'ils seront tout blancs ou de quelle couleur. Mais on m'a dit qu'il y aurait pas de différence vraiment pour nous, les cyclistes, enfin, pour moi. Je pourrais participer en tant qu'athlète neutre, on va dire. Et apparemment, la délégation de Russie va quand même y aller. C'est juste qu'il n'y aura pas de drapeau. Pour le moment, personnellement, ça m'impacte pas, quoi. Voilà, j'espère juste que les JO auront lieu.
Il y aura le même nombre d'invitations pour les athlètes russes.
Normalement, ouais, on est trois coureurs, normalement, oui. J'espère essayer de faire le contre-la-montre également. Ça serait quelque chose de sympa aussi.
Et tu as déjà un peu des certitudes sur ta participation? Tu sais quels vont être les 2 autres coureurs?
Pour le moment, il y a moi et Vlasov, on est quand même sur la liste. Et le troisième coureur, je sais pas. Je sais pas qui sera le troisième coureur. Donc voilà, j'ai discuté aussi avec le sélectionneur pour faire le contre-la-montre, et c'est une possibilité également.
Ok, super.
Ça serait cool, ouais.
Top. Et pour en revenir un peu à ton équipe Ineos Grenadier, tu as couru pour des très grands leaders. Quel est le leader qui t'a le plus marqué, toi, de tes 3 ans dans l'équipe?
Honnêtement, ils ont tous quelque chose de spécial, tous les grands leaders comme ça. Après, c'est sûr, en arrivant dans l'équipe, la première année, c'était super. J'avais pas couru avec des gros leaders ma première année, excepté le Tour de Pologne après le Tour de France où Kiato a gagné. Ça a été un de mes meilleurs moments en 2018, vraiment. C'était super. C'est vraiment un super leader. Et ensuite, il a enchaîné la Volta. J'étais sur la Volta aussi au début. C'était vraiment super de courir avec lui. Ensuite, en 2019, voilà, j'avais couru avec Egan, on va dire, par exemple, sur le Tour de Catalogne. Mais même si c'est un leader, on est quand même, on va dire, du même âge, de la même génération. On va dire que c'est différent, par exemple, que de côtoyer quelqu'un comme Chris Froome ou Geraint Thomas. J'ai vraiment grandi en les regardant à la télé, les regardant gagner. Donc pour moi, par exemple, le stage que j'ai pu faire à Tenerife avant d'aller sur le Giro et les Tours des Alpes, j'ai vraiment pu côtoyer pour la première fois un gars comme Chris au quotidien. Et je pense que j'ai vraiment beaucoup appris de lui durant ce stage. Et ensuite, avoir eu son support autour des Alpes, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment permis de prendre confiance et de faire les bons choix, on va dire, dans la course, tactiquement, comment la façon de courir. C'était super. Et voilà, ensuite, J aussi, c'est ce qui est super en fait dans l'équipe, c'est que tous les gros leaders sont vraiment super humbles, sont juste des mecs normaux, quoi. Et on discute avec eux, on est sur les stages avec eux, comme voilà, c'est juste normal. Et non, c'est vraiment super. Il n'y a pas d'ego, on va dire, surdimensionné. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, je pense, dans l'équipe. Et c'est ça qui fait que ça marche aussi bien aussi, parce que on peut avoir des gars qui pourraient être leaders dans notre équipe qui font le boulot pour d'autres. Et je pense que c'est une des raisons.
Le collectif qui est plus gros que les individualités.
Ouais, je pense, ouais. Il y a, c'est comme j'ai dit, il y a pas vraiment d'ego, et tout le monde est prêt à se sacrifier pour l'autre. Non, je dirais pas qu'il y a une personne qui m'a marqué, mais voilà, c'est sûr que avoir eu Chris comme équipier, parce que voilà, j'ai grandi en le voyant regarder tout, en le regardant à la télé gagner tous ses Tours de France, c'était quelque chose de spécial. Peut-être moi, ouais, maintenant qu'il est parti aussi également, c'était voilà, c'était quelque chose de spécial pour moi.
Ok. Et Ineos Grenadier, moi je trouve que c'est un sponsor un petit peu qui ressort par rapport aux autres. Est-ce que déjà, c'est une voiture? Je suis même pas sûr que beaucoup de gens le savent. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de la conduire, cette voiture?
J'ai pas eu l'occasion de la conduire, mais je l'ai vue. En fait, vu qu'on avait les prototypes, ouais, on a pu voir les voitures, et normalement ça devrait être lancé cette année. Mais ouais, voilà, on va dire, c'est sûr, c'est un sponsor assez spécial par rapport aux autres. C'est ouais, une filiale d'Ineos, de l'entreprise Ineos qui ont créé ces 4x4 tout-terrain. Et voilà, c'est super vraiment qu'ils investissent dans notre équipe de cette façon.
Est-ce qu'il n'y a pas des primes où, si tu gagnes un grand tour, tu auras un des premiers 4x4 qui sera sorti de la ligne?
Non, on a rien comme ça dans le contrat, mais je sais pas si quelqu'un gagne le Tour de France, peut-être qu'il peut demander à l'équipe de lui offrir un 4x4, mais ouais, non, il n'y a pas de prime vraiment spéciale, mais non, c'est ça serait cool, c'est sûr. Ça, je pense que ça serait un beau cadeau pour le vainqueur d'un grand tour.
Et d'ailleurs, est-ce que tu sais où sera fabriquée la voiture?
Je sais que ça sera fabriqué en France.
Ouais.
Ça sera fabriqué en France, donc je sais plus exactement la ville. Il me semble que c'est en Alsace. Non, je suis pas
C'est
sûr.
ça, c'est entre Metz et Strasbourg. J'ai découvert ça
Ouais,
en
ouais,
préparant
ouais, ouais,
l'interview.
ouais. Il me semble que c'est en Alsace. Donc, ouais, c'est cool je pense, voilà, aussi le Tour de France, ça va être quelque chose de, c'est déjà que c'est la plus grande course au monde, c'est la course la plus importante de l'année pour chaque équipe. Ça renforce en plus pour nos sponsors l'importance de cette course.
Tu fais la promotion de l'industrie française. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en rendaient compte parmi les suiveurs du vélo.
Non, je pense que y a beaucoup de monde qui le sait pas, et même dans l'équipe je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que les voitures vont être produites en France.
Et moi, une chose qui me surprend sur l'équipe, qui est, si ce n'est la plus grande du monde, une des plus grosses du monde, c'est que vous n'avez toujours pas d'équipe féminine. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui va arriver dans le futur?
Je sais pas, je sais pas vraiment encore, mais honnêtement, c'est une question ouais, assez compliquée, je dirais. Et j'en ai pas discuté avec Dave, mais ouais, c'est vrai que après c'est assez, je sais pas comment ça fonctionne au final. Les équipes féminines, c'est sûr que c'est on va dire sous-développé par rapport au cyclisme masculin, et on voit de plus en plus de grosses équipes qui commence à créer des équipes U23, des équipes féminines, et peut-être que ça arrivera chez nous également. Je sais pas vraiment, je sais pas du tout, j'en ai pas discuté avec le management. C'est
Les
sûr que
coureurs,
ça c'est une bonne question.
il n'y a pas, vous avez pas, c'est pas un sujet que vous avez ramené sur la table.
Non, honnêtement, ouais, c'est peut-être voilà, c'est peut-être aussi un problème au final, parce que personne n'y pense vraiment. on est focus sur nos trucs et on pense pas vraiment aux équipes féminines. Et voilà, et surtout ces années-là, cette l'année passée aussi avec le Covid, je pense que ça a été encore plus compliqué pour les équipes féminines de continuer à exister. Donc, non, personne n'a vraiment rapporté sur la table. On n'en a jamais vraiment parlé entre nous non plus. Ouais, c'est sûr que voilà, c'est ce qui reste. C'est peut-être aussi un problème au final parce qu'on n'en parle jamais entre nous coureurs masculins. Donc voilà, c'est.
Pour l'image, en fait, moi je me dis que une équipe féminine, aujourd'hui, c'est 5% du budget sûrement de votre équipe, si ce n'est moins. C'est le salaire d'un gros coureur. Et c'est quelque chose sur lequel maintenant toutes les grosses équipes s'alignent et avec une équité qui arrive doucement, avec le Tour de France qui arrive en 2022. Ouais, peut-être, j'espère que ce sera l'occasion d'Ineos de montrer l'exemple là-dessus dans le futur.
Ouais, quand on voit les équipes comme par exemple Jumbo, ils ont vraiment, on va dire un effectif énorme. Par exemple, j'ai lu qu'ils avaient eu leur stage en Espagne avec l'équipe professionnelle masculine, l'équipe professionnelle féminine et leur équipe développement U23. Donc ouais, c'est sûr que par exemple, eux ont vraiment investi là-dedans. Après, c'est pas à moi de poser la
Bien
question,
sûr,
donc
bien
je
sûr,
sais
bien
pas
sûr.
vraiment. Moi, voilà, je fais, on va dire, je suis focus sur ma performance, sur l'équipe. Donc, ouais, chaque équipe a sa politique et sa façon de fonctionner. Je pense que notre équipe aussi, c'est une équipe qui, quand elle se lance dans quelque chose, faut que ça soit à 100%. Donc, là, créer une équipe féminine pour nous en une année, je pense que c'est assez compliqué. Je pense que, par exemple, Dave, c'est quelqu'un de perfectionniste. S'il fait quelque chose, faut qu'il soit le meilleur. Faut qu'on soit les meilleurs. Donc ouais, si on a un truc qui fait bien, ce serait pour, pareil, être dans le numéro un. Donc, voilà, pour jouer la gagne tout le temps. Donc, je sais pas, on verra bien. On verra bien ce que le futur va nous apporter.
Ok. Pour revenir un peu sur ton année 2020, on parlait déjà du Tour qui avait été une déception pour toi malheureusement avec deux chutes d'emblée dès la première étape. Quel bilan tu tirerais de cette année?
Honnêtement, bon après ça a été une année compliquée pour tout le monde et pour les raisons que l'on connaît tous. Et sur un plan, on va dire sportif, ça, malgré la déception du tour, ça a quand même été une bonne année pour moi. On va dire, j'ai franchi un palier en termes de performance. J'étais vraiment à mon meilleur niveau, enfin au niveau le plus haut auquel j'ai été avant le tour sur le Dauphiné, sur la route d'Occitanie. J'ai vraiment senti que voilà, je pouvais être au contact des meilleurs en haute montagne. Et ça reste vraiment le point positif d'avoir atteint, on va dire, une performance telle. Donc ça va être l'avantage. Et puis ensuite, ouais, avoir juste fini le tour, c'est quand même quelque chose de spécial, même si ça a été très compliqué. Je pense que et j'espère que ça va m'aider dans le futur. Voilà, c'est peut-être en quelque sorte pas. C'est voilà, ça a été compliqué, mais c'est pas plus mal. Maintenant, ça peut que aller mieux, on va dire, sur le tour. Donc, c'est peut-être, on va dire, bien d'être passé par une mauvaise expérience pour revenir sur le tour et vraiment l'apprécier. Sa plus juste valeur. Non, ça a été une année spéciale. Voilà, j'ai fini. Ça a été difficile. Je me suis beaucoup, beaucoup entraîné. Et mentalement, s'entraîner, sans course, c'est difficile. Ensuite, le tour, j'ai vraiment souffert pendant 3 semaines et j'étais vraiment émoussé mentalement à la fin du tour. Voilà, j'ai mis un terme à ma saison au final. Après ça, j'étais vide, vide. Non, je viens récupérer et j'ai vraiment hâte de recommencer à courir.
Et comment se passe son intersaison, toi, en ce moment?
Ça se passe bien, ça se passe bien. Ça, voilà, je suis en Andorre. Là, on a fini notre premier stage avec l'équipe. Notre seul stage cet hiver avec l'équipe Grand Canary. On a fait un très bon bloc là-bas. Voilà, on va dire, je peaufine encore un petit peu ma forme ici. Et voilà, dans une, je sais pas, on est le 6 aujourd'hui, le 19, ça va être ma première course. Donc, il me reste un petit peu plus de 10 jours, pour encore avoir quelques entraînements. Et non, ça s'est très bien passé. Voilà, juste hâte de pouvoir commencer. Ça fait un moment que je m'entraîne.
J'aime bien quand tu dis tu peaufines alors que tu as fait 200 km hier, 170 km jeudi. Voilà, les amateurs aimeraient bien peaufiner comme ça à coup de 200 km par-ci par-là.
Ouais, en ce moment, c'est, on va dire, la saison des. Dans les Pyrénées, la météo est assez capricieuse. On peut avoir des très belles journées un jour et puis une journée moins bonne le lendemain. Donc, on joue un peu, on va dire, on planifie nos blocs autour de la météo. C'est pour ça que, voilà, hier, par exemple, j'ai fait une longue sortie parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu rouler autant que je l'aurais voulu à cause de la météo. Donc, on se prépare, ouais, on joue, ouais, avec la météo.
Ok. Et quel est ton état de forme par rapport à l'année dernière?
Honnêtement, c'est dur de comparer. L'année dernière, j'avais commencé la saison avec comme objectif d'être sur l'équipe, d'être dans l'équipe du Tour. Et c'est différent, c'est une préparation différente de cette année où je vais viser le Giro. Je sais pas, on va voir la forme est plutôt bien. C'est sûr, je suis pas à la forme que j'avais par exemple au Dauphiné. Et c'est même bien de pas être à ce niveau-là maintenant. Ça serait beaucoup trop tôt. Donc, non, j'ai l'impression que ça va bien. Je suis content d'où j'en suis actuellement. Ouais, ça se passe bien. Je pense que je suis sur le bon chemin, on va dire.
Top, bah écoute, c'est ce que je te souhaite aussi. Hâte de te voir sur les routes du Tour du Var et des Alpes-Maritimes.
Super, ouais, bah ouais, moi aussi, j'ai hâte d'y être. Ça va être compliqué. Il y a juste 3 étapes, mais chaque jour, il me semble plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc, ça va être une belle partie de manivelle.
Ok. Je voulais rentrer un peu dans l'intérieur du peloton professionnel et je voulais te demander qu'est-ce qui a été une évidence pour vous comme cycliste professionnel, mais qui est incompris ou inconnu du grand public.
Je sais même pas à quoi répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, qu'est-ce que tu aurais en tête?
Non, bah toi, par exemple, quelque chose qui te frustre comme coureur professionnel, où tu dis, mais le grand public, s'il savait ça, je comprends pas comment ils sont pas au courant, ou des choses comme ça un peu large entre ce qui se passe de l'intérieur et comment c'est perçu de l'extérieur.
Honnêtement, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le grand public réalise pas la nervosité qu'on peut avoir dans un peloton, dans un final. Quand on regarde à la télé, on a l'impression que c'est fluide, que c'est assez tranquille, mais en réalité, c'est très stressant, très compliqué. On prend des gros risques quand même. Ouais, cette idée de risque. D'ailleurs, il y a eu un très très mauvais accident avec Fabio Jakobsen, par exemple, l'année dernière. Donc, voilà, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est les risques qu'on prend en tant que coureur. Ensuite, peut-être le grand public, ce qu'il faut vraiment. Là, je parle d'un public qui n'a pas vraiment aucune idée à propos du sport cycliste, on va dire. Ils comprennent pas trop aussi les tactiques qui ont lieu dans le vélo, quoi. C'est dur d'expliquer à un novice que chaque équipe a son leader et que, en fait, ils savent que c'est un sport individuel. Au final, il y a un seul vainqueur, mais dans chaque équipe, il y a un leader et une équipe tourne autour d'un leader et c'est difficile à expliquer. Ils comprennent pas aussi, je pense, au début, cet effet vraiment d'aspiration, l'effet qu'on peut avoir, en fait, d'être au milieu du peloton. On fait beaucoup, beaucoup moins d'efforts que d'être en tête. Et non, il y a plein de petites notions comme ça qu'il faut toujours expliquer à quelqu'un qui s'intéresse au sport cycliste, qui commence à s'intéresser au sport cycliste. Et ouais, il y a beaucoup de trucs. Les, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait me venir en tête aussi. Moi, je sais même pas.
Non, mais
Les
c'est déjà pas mal. Et je te confirme que
ouais.
moi, étant un nouveau passionné de vélo, c'est deux choses aussi que je sous-estimais quand je commençais à m'intéresser au sport.
Ouais, c'est des trucs qui, pour nous, semblent complètement logiques, mais que voilà, les novices ne comprennent pas vraiment. Et après ensuite, quand on comprend aussi toutes les tactiques qui ont lieu, une échappée du jour, pourquoi une échappée part, et etc. C'est quelque chose qu'il faut toujours expliquer et tout le monde ne comprend pas directement.
Ok. Est-ce que toi, tu as des très bons potes dans le peloton?
Ouais. Ce qui est bien ici en Andorre, c'est qu'on habite tous assez proches les uns de l'autre. On roule souvent ensemble. Voilà, par exemple, hier, non, pas hier, il y a 2 jours, j'ai roulé avec Kenny et Jack Egg. On a fait une belle sortie ensemble. Kenny Ellison et Jack Egg de Bahreïn. Ensuite, Tao est ici aussi de l'équipe. Voilà, Ivan Cortina aussi, je roule assez souvent avec lui de chez Movistar. Ouais, on a une belle petite communauté de cyclistes ici, c'est assez cool.
C'est cool. J'ai entendu aussi dans un podcast que tu avais donné avec Geraint Thomas et Lucro que tu parlais du régime et que, par exemple, pour toi et Geraint, qui n'avaient pas naturellement un physique très slim, que c'est plus compliqué pour vous. Quels sont, toi, les plus gros efforts que tu dois faire là-dessus et quelles sont tes recettes un peu là-dessus?
Ouais, c'est sûr, pour moi, c'est, moi, je dirais, le plus compliqué dans mon métier, c'est vraiment le régime alimentaire. J'ai pas vraiment le métabolisme de quelqu'un qui peut manger n'importe quoi et rester mince. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à tout, quoi, quand je suis en période pour préparer, on va dire, un grand tour ou une course où il faut que je grimpe. Après, je peux être performant, on va dire, un poids plus élevé, mais voilà, ça va être compliqué dès que la route s'élève. Il faut vraiment que j'ai un rapport poids-puissance optimal. Et c'est compliqué. Il y a des périodes, voilà, il faut vraiment se restreindre. Pour perdre ce poids, j'ai tendance à prendre pas mal de poids aussi dans l'intersaison, on va dire, où je coupe avec le vélo. Ouais, les recettes, c'est même pour moi assez compliqué. Donc, voilà, vraiment, vraiment, ouais, voilà, avoir, on va dire, un plan, savoir ce qu'on mange. Pas quelque chose de strict, décrit, il faut que tu manges ça, 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 mais voilà, c'est vraiment. Vraiment connaître nos besoins et ben même pour moi des fois c'est difficile, c'est assez facile de tomber dans l'excès, on va dire, de manger trop peu, ensuite le lendemain on va avoir du mal à l'entraînement, ça peut arriver, donc non, c'est quelque chose vraiment où il faut, et j'ai la chance d'avoir le support de l'équipe pour ça avec un nutritionniste, où faut vraiment, voilà, c'est si on a la possibilité de bosser avec quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine, parce que des fois on peut aussi faire des erreurs. Mais voilà, au fil des années, de toute façon, on prend de l'expérience et on apprend aussi ce dont notre corps a besoin, parce que au final, un nutritionniste peut dire une chose, mais il se situe pas dans notre corps, donc. Nos besoins sont différents. Par exemple, sur les courses, si je pense qu'une journée stressante aussi peut, par exemple, jouer en termes de nos besoins sur un plan nutritionnel, parce que voilà, le cerveau va aussi utiliser beaucoup d'énergie. Non, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui me plaît, la nutrition. C'est quelque chose de, moi, comme je l'ai dit, d'intéressant et de compliqué, et c'est vraiment propre à chaque coureur, à chaque personne. Il faut beaucoup, pas mal de temps, je pense, pour vraiment trouver on va dire, l'équilibre. Il sera jamais parfait, cet équilibre, mais trouver un très bon équilibre qui nous permettra, on va dire, et moi-même personnellement, j'ai pas encore trouvé parce que j'ai des variations assez élevées, on va dire, pendant l'intersaison, et ensuite en saison. Mon poids varie énormément, donc j'aimerais vraiment, au fil de ma carrière, vraiment trouver cet équilibre où les variations sont assez moindres, parce que quand les variations sont grandes, il faut du coup ensuite faire beaucoup plus d'efforts pour retourner assez bas. Et ces périodes sont quand même assez compliquées, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on utilise la période hivernale où on a moins d'intensité pour pouvoir l'effectuer.
Et quand tu dis des variations, c'est entre quel poids et quel poids?
C'est du coup, bah voilà, j'étais aux alentours de 68 kilos, on va dire, sur le Tour de France l'année dernière. Et bon, pour l'intersaison, je sais pas, cet hiver, j'étais bon, facilement au-dessus de 75, même 76, 77 peut-être. Donc c'est quasiment, voilà, 9 kilos au-dessus. Donc pour moi, ouais, c'est beaucoup, mais voilà, j'ai déjà perdu pas mal. Voilà, mon corps aussi peut perdre assez rapidement, donc voilà, c'est sûr que, et aussi mon gabarit, j'ai quand même un grand gabarit. Pour moi, 1 kilo, c'est pas 1 kilo pour quelqu'un qui fait 1 mètre 65. C'est différent, chaque coureur aussi, ouais, voilà, mais c'est une partie compliquée du job, c'est sûr.
Et à l'inverse, quand tu peux te lâcher, par exemple, à la fin d'un grand tour, tu vas te ruer sur quoi comme, entre guillemets, malbouffe?
Honnêtement, un peu tout, on va dire. J'adore tout ce qui est sucré, mais voilà, honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence, mais ouais, tout ce qui passe, quoi. Vraiment, ça peut varier, mais voilà, je vais me ruer sur la malbouffe, c'est sûr.
Et pour faire la passation sur Pavel, en dehors du vélo, qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes pas?
Bah, honnêtement, là en saison, je fais quasiment que ça, que m'entraîner et me reposer. On est fatigué entre les blocs. Et ensuite, bah, pendant l'intersaison, j'adore voyager. Voilà, ça a été assez compliqué, on va dire, cet hiver avec le Covid. Mais moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir le faire un petit peu. Ouais, après, j'essaie d'occuper mon temps libre. Comme je le peux, honnêtement, j'ai pas vraiment de gros hobbies ou de grosses passions.
Tu suis
Voilà.
pas d'autres sports?
Pas vraiment, non. Pas vraiment, je suis pas un grand fan d'autres sports. Ouais, vraiment, j'aime bien couper vraiment du monde du sport. Et penser à autre chose. Non, voilà, voir des amis, voyager, j'adore ça. Manger, j'adore, moi, découvrir aussi des nouveaux restaurants, tout ça. Ouais, c'est plein de choses. Alors, regarder des films, des documentaires, des séries, essayer de m'instruire un peu sur différentes choses. Déjà, essayer de penser, ouais, de trouver, ouais, des occupations différentes du sport.
T'habites en Andorre, est-ce que tu as le droit de skier dans ton contrat?
Je me pose toujours la question, mais je pense que voilà, si je vais skier quelques fois, ce ne sera pas un souci. J'ai beaucoup skié étant plus jeune. Là, depuis que je suis professionnel, j'ai plus trop skié. Donc, ouais, j'aimerais bien, je pense déjà à m'acheter une paire de skis vraiment, parce que voilà, ça c'est assez bizarre de ne pas skier étant en Andorre. J'habite à 5 km d'une station de ski. Donc, ouais, je pense que tant que je le fais prudemment, ça devrait pas être un souci.
Et pour ce qui est même du gravel, par exemple, ou du VTT, est-ce que l'équipe vous essaie de vous retenir là-dessus? C'est quand même plus dangereux la
Non,
chute.
non, ça c'est pas un souci, c'est pas un souci, non, non, c'est pas un souci du tout. Non, le gravel, surtout le gravel, je pense que c'est le plus safe, on va dire, même le VTT. Si on fait pas de la grosse descente, c'est quand même au final peut-être moins dangereux que rouler sur la route, des fois. Donc, non, non, il y a pas de restriction sur ce point-là.
Et en parlant de danger, on est le 6 février. L'UCI hier a interdit la position allongée sur le cadre. Peut-être sûrement quelque chose que tu as suivi. Quelle est toi ta position sur cette mesure?
Honnêtement, je pense qu'il y a des qu'il y aurait eu des choses plus importantes, on va dire, à débattre. C'est personnellement, j'ai jamais vu un accident au sein du peloton à cause de ça, que quelqu'un tombe lorsqu'il est dans cette position, parce que je pense que à chaque fois qu'un coureur se met dans cette position, il est quand même assez concentré, il a conscience que c'est plus rapide, c'est plus, on va dire, en quelque sorte, plus dangereux. Je sais pas, plus dangereux, mais on est vraiment concentré quand on se met dans cette position, on va pas regarder autour de nous. Et j'ai jamais vu un accident à cause de ça. Par exemple, peut-être, je sais pas s'ils ont débattu sur les types de barrières, par contre, par exemple, qu'il y a eu autour de Pologne, c'est peut-être plus important que ça, ou d'autres choses. Je suis pas non plus quelqu'un le mieux placé pour en parler, mais voilà, je pense que c'est quand même assez. Personnellement, j'en vois pas le danger, et surtout, au final, c'est, par exemple, pour moi, des fois, ça peut, je sais pas, quand on est sur le vélo, on sent vraiment que on prend de la vitesse en faisant ça, et des fois, dans un final, quand un coureur part solo, ça lui donne plus de chances de, voilà, une petite chance d'aller au bout, quoi. Et non, moi, je sais pas. Voilà, personnellement, je pense qu'il y aurait eu il y a d'autres problèmes dans le cyclisme que cette position sur le cadre.
A parlé des barrières pendant les sprints. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui, selon toi, sont vraiment devraient être les priorités de l'UCI?
Ouais, peut-être, mais là, ça serait déjà pas vraiment l'UCI, ça serait c'est quelque chose de plus compliqué. Voilà, c'est déjà on va dire, le système du cyclisme mondial qui est comme ça. Et par exemple, l'année dernière, avec le Covid, on a vu beaucoup d'équipes qui ont eu du mal avec les salaires de certains coureurs. Mais bon, c'est comme ça. Mais avoir, on va dire, une certaine stabilité pour cela, ça, ça dépend pas non plus du CI. Ce serait vraiment à débattre avec les équipes, l'UCI et toutes les différentes organisations qui tournent autour du cyclisme. Mais c'est sûr que dans le futur, ça serait vraiment excellent d'avoir plus de stabilité pour chaque équipe, de pouvoir vraiment garantir, quoi, avoir une garantie pour les salaires, et même pour les futurs des équipes. Mais bon, on le voit, c'est compliqué dans chaque sport au final. Même maintenant, là, il y a des scandales dans le foot, avec les droits médias, tout ça. Voilà, on n'en a pas, nous, vraiment dans le cyclisme. Les droits médias, les équipes n'ont aucun droit média, ce qui est dommage au final. Et ouais, il y a vraiment, je pense, quelque chose de. Il y aurait peut-être quelque chose à changer dans le système, mais quoi exactement, je sais, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment penché sur la question non plus. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup pensé, et qui doivent être en train d'avoir certains projets, sûrement, sur ce point-là. Mais voilà, s'inspirer des sports à très gros budget, comme les sports aux États-Unis, par exemple, ou voilà, le foot, quoi. C'est avoir, en fait, plus de, on va dire, que les équipes aient plus de contrôle dans le sport que, on va dire, certains organisateurs. Parce qu'au final, les droits médias vont aux organisateurs aussi. Mais après, c'est une question. Voilà, ça a toujours été comme ça en cyclisme, mais c'est dur de changer. C'est toujours comme ça un peu partout. Les gens ont tendance à être, on va dire, assez conservatifs. C'est toujours dur de faire un changement, mais je pense que, voilà, j'espère qu'un jour ça sera comme ça, parce que c'est toujours difficile à la fin des saisons. Il y a toujours une équipe qui peut s'arrêter, des coureurs qui sont sur la sellette, et voilà, c'est compliqué. Mais bon, à chaque fois, Malgré cela, il y a toujours les managers d'équipe arrivent à trouver les sponsors et arrivent à garder les coureurs, et les coureurs arrivent à trouver les équipes. Donc, c'est pas le cas de tout le monde, mais on va dire que ça reste quand même, je me plains pas, ça reste quand même assez bien.
Ok. Je voulais finir cet épisode par une petite discussion matos. Toi, tu roules sur quel vélo?
Pinarello F12. Le vélo de l'équipe, quoi.
Vous avez plusieurs
On est la
vélos?
dernière équipe. On est la dernière équipe avec sans les freins à disque.
Ah ouais, c'est officiel.
Partie
Et
du
toi,
peloton, ouais.
quelle est ton opinion sur ce sujet controversé?
Oh, honnêtement, j'ai jamais vraiment essayé les freins à disque en course. Après, si toutes les équipes changent, voilà, on sera les derniers. Peut-être que maintenant, l'année prochaine, dans 2 ans, on les aura aussi, je sais pas. Ça a été décidé comme cela par l'équipe, mais moi, je m'en plains pas. C'est très bien comme ça l'est. Voilà, peut-être que, à mon avis, les freins à disque ont un avantage quand même par très gros temps de pluie. Il y a une durée plus courte de freinage. Après, j'ai pas essayé, comme je l'ai dit, j'ai pas essayé sous la pluie, j'ai pas essayé les freins à disque. Je peux pas vraiment comparer, mais à mon avis, il y a quand même un petit avantage sur ce point-là. Mais sinon, sur partant sec, j'en vois pas vraiment. Il y a jamais, j'ai jamais vu non plus d'accident à cause de cela. Donc ouais, non, c'est sûr, je dirais pas que c'est un sujet controversé, mais c'est bizarre, voilà, d'être la dernière équipe sur les freins à patins.
Et est-ce que tu penses qu'au niveau matériel, il y a des différences suffisamment importantes dans le peloton pour donner un avantage compétitif à certaines équipes plutôt que d'autres?
À mon avis, oui. Après, dans le World Tour, je pense qu'elles sont moindres, car quasiment chaque équipe a quand même des très bons sponsors pour le matos. Mais voilà, c'est sûr que par exemple, surtout sur des contre-la-montre, un très bon vélo de chrono peut donner un bon avantage à certains coureurs. C'est très important. Je pense que des fois, voilà, par exemple, la question du grand public, je pense que le grand public peut vraiment, même n'a pas connaissance de l'avantage que peut avoir un vélo. Mais voilà, c'est sûr que, par exemple, certaines équipes Pro Conti, vont avoir des fois un désavantage par rapport aux équipes du top sur World Tour, parce que chaque détail, on va dire, de l'équipement compte. C'est comme, on va dire, comme en Formule 1. Voilà, c'est en fait, il y a deux choses qui rentrent. C'est une combinaison vraiment du matos et de la performance du coureur. C'est sûr, voilà, la performance du coureur, ça va être numéro un. Mais ensuite, le matos, c'est quand même très important. Les pneus, l'aérodynamisme du vélo, la rigidité et tout. Le vélo va vraiment aider à la performance. Mais voilà, comme je l'ai dit, maintenant, les grosses équipes pour le tour sont quand même sur un pied d'égalité. Il n'y a pas une différence énorme entre nos vélos, quoi. Mais c'est sûr que, voilà, si on passe d'une équipe où les vélos, on va dire, sont un petit peu moins bien, à une équipe où les vélos sont super, on va de suite ressentir la différence.
Vous travaillez avec Pinarello pour améliorer les vélos?
Personnellement, en tant que coureur, en fait, on va plus donner le feedback à l'équipe On a des personnes qui sont en charge vraiment de ce travail de performance sur l'équipement, et eux vont vraiment ensuite, on va dire, regrouper les feedbacks des coureurs et les transmettre à Pinarello. Mais oui, il y a quand même un travail de complémentaire, on va dire, entre l'équipe et Pinarello.
Et est-ce que toi, il y a une nouveauté matos, technique, que ce soit vêtements ou vélo, ces 5-10 dernières années que tu trouves à changer la donne?
Cinq, 10 dernières années, honnêtement, ça, il y a beaucoup beaucoup de choses, ouais. Oh, je saurais même pas dire. En fait, ça évolue constamment. Il y a toujours des nouveautés en aéro, que ce soit en aérodynamisme, sur le poids, sur la rigidité. C'est un ensemble, je dirais. Les vélos évoluent, en fait. Si on regarde un vélo d'il y a 10 ans, j'avais l'impression que waouh, c'est un super vélo. Et on voit que maintenant, ça a changé, quoi. on va dire, ça a l'air ringard et vieux.
Bah, écoute, très, très clair. Dernière petite question pour finir l'épisode. Quelles ont été les personnes clés dans ta carrière que tu aimerais remercier pour en avoir pour être arrivé jusqu'ici?
Tout d'abord, je dirais ma mère en numéro un. Voilà, ça serait vraiment la personne la plus importante au sein de ma carrière. Ensuite, je remercierai beaucoup Denis Briscadieu qui a été en fait qui a créé l'équipe junior où j'étais et qui l'équipe existe toujours Lille Jourdain à l'U19. Et il a vraiment joué un rôle clé aussi dans ma carrière. Bien sûr, et Nico Portal aussi a vraiment joué aussi un rôle au début de ma carrière. Malheureusement, il est plus parmi nous au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est dur. Voilà, ça, c'est certaines personnes clés. C'est dur de citer tout le monde parce qu'il y a eu tellement de personnes, en fait. En tant que sportif, c'est, en fait, on. Je dirais l'entourage est quelque chose de très très important et j'ai vraiment été très chanceux d'être entouré par de très bonnes personnes. Même mon coach actuel, ça a été aussi important pour moi. Les 2 dernières années, depuis que je bosse avec lui, voilà, j'ai eu de gros résultats. Donc ça, c'est on va dire quelque chose de plus proche. Mais voilà, quand j'étais plus jeune. Je dirais ma mère. Ensuite, Denis m'a beaucoup beaucoup aidé. Voilà, ouais, en fait, on a la chance d'être entouré par, si on arrive à bien s'entourer des bonnes personnes, et vraiment à savoir, il faut savoir écouter, je dirais, écouter, essayer de prendre, chacun a quelque chose à nous apporter, que ce soit coureur, que ce soit DS, que ce soit le staff, tout le monde vraiment, nous aide, ouais, voilà, à progresser en tant que personne et s'améliorer, même pas en tant que coureur, quoi, juste au quotidien. Et voilà, non, il y a vraiment énormément de monde, même voilà, Day aussi, de m'avoir fait confiance, d'être dans son équipe. C'est la meilleure chose, on va dire, qui a pu m'arriver. Donc voilà, c'est sûr. Mon agent aussi, Idriss, a joué un grand rôle. Donc, ouais,
C'est déjà pas mal.
c'est vraiment dur, ouais, c'est sûr, c'est dur.
Super. Bah, Pavel, merci beaucoup pour ton temps et je te souhaite une excellente saison.
Merci, merci
À
beaucoup.
bientôt.
À bientôt.
Et voilà, j'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en me contactant sur les réseaux sociaux, je prends toujours très plaisir à vous lire, ou en me laissant un avis sur Apple Podcast, c'est ça qui permet aussi au podcast d'avoir plus de visibilité. Merci beaucoup de votre écoute et à dans 2 semaines.